Eh bien, bonsoir et bienvenue sur l'antenne de Radio Morpheus, www.radio-morpheus.com. Vous avez l'habitude de nous retrouver maintenant tous les jours. Ce soir, nous sommes mercredi, c'est l'émission Les Cris du Cœur. C'est animé par Jacques Sirgent qui a un invité ce soir qu'il va nous présenter. Bonsoir Jacques et bonsoir Pierre.
Bonsoir Michel.
Bonsoir Michel, bonsoir à tous et bonsoir
Néo.
Pierre.
Néo.
Bonsoir
voilà,
Jacques. Oui.
Voilà.
Alors, nous continuons dans la série des auteurs édités par l'édition Juste pour lire. Après avoir eu l'honneur d'être invité par La Fée Verte dans son émission La Face Cachée de la Lune, j'ai eu l'immense bonheur et privilège d'accueillir Clotilde d'Albepierre pour Gros Matou et Le Secret de l'Arbre de Vie. La Fée Verte a accueilli à son tour Marc Willem pour Made in France. Et là, j'ai l'immense plaisir d'accueillir ce soir donc Pierre Brulet. Donc, il fait partie du groupe d'auteurs publié par Juste pour lire pour son livre L'enfant du cimetière, qui est difficile à classer, à cataloguer, ce qui est toujours un problème. C'était un peu la même chose pour le livre de Clotilde d'Albepierre. C'est que Pierre, tu m'avais dit au départ que c'était un roman gothique.
Un conte gothique,
et qui dit gothique dit quelquefois faire peur aux gens, donc commercialement c'était pas quelque chose. On a mis dans la section jeunesse, alors que c'est un livre qui peut s'adresser, je dirais pas de 7 à 77 ans, mais de 10 à 12 à 77 ans.
Ouais.
Mais avant de parler du livre lui-même, Pierre, on va commencer par une question habituelle. Peux-tu nous raconter ton parcours, ce qui t'a mené à l'écriture, s'il te plaît?
Voilà, ça serait un petit peu compliqué. Je pense qu'avant tout, mon parcours a été influencé par mes voyages. Ça, je pense que c'est très important. Surtout, quand je pense voyage, je pense à mon enfance, à mon adolescence, où j'ai passé. Je suis parti de la France, j'avais 5-6 ans. J'ai vécu 2 ans en Mauritanie. Et ensuite, direct la Côte d'Ivoire pendant à peu près 12 ans. Donc 14 ans d'une enfance africaine. Qui dit l'Afrique dit aussi donc un changement, une vision différente de ce qu'on peut voir en France, ressentir en France. Et j'étais notamment très marqué par les gens hein, sur place. Oh, il y a un petit. Et puis aussi les histoires. Il se trouve qu'en fait que la Côte d'Ivoire à l'époque c'était et encore plus maintenant n'était pas un pays sans risque. On était quand même bien là où on se trouvait, mais le soir il y avait ce qu'on appelait des gardiens parce que les maisons n'étaient pas sécurisées et il y avait beaucoup de vols, enfin c'était régulier. Et donc on avait un gardien qui s'appelait Amidou. Et le soir, nous racontait des histoires. Il faut savoir que les histoires ne s'écrivent pas, elles se racontent de génération en génération. Mmh. Et voilà, moi, ça m'a émerveillé. Il y avait tout un tas de choses. Et puis, ce qui m'avait aussi frappé, c'était ces sortes de joutes verbales qu'il y avait. Alors, contrairement à ce qu'on peut voir en France quand une situation se complique, avant de parler, on casse la gueule à la personne qui s'oppose à nous. Là-bas, c'était tout à fait différent. Il y avait de la bagarre, mais une sorte de joute verbale. Donc la place des mots était très importante.
Qui précédait la bagarre physique ou qui la remplaçait?
Qui la remplaçait. Okay. Et c'était tellement extraordinaire qu'il y avait des phrases, je n'ai pas en mémoire, mais il y avait des choses absolument incroyables. Si j'avais pu noter à ce moment-là... ça m'a vraiment marqué et ça a ramené une foule qui venait assister à ce combat en fait, hein, ce combat de boxe par les mots. Moi, ça m'avait beaucoup marqué.
Mais voilà. Ces combats étaient motivés, suivaient des différents très importants ou c'était eux aussi des différents symboliques, c'était juste des oppositions intellectuelles, mettons, des personnes qui n'étaient pas d'accord entre elles sur un point donné.
Ça pouvait être les deux, ça pouvait être... On se moquait beaucoup là-bas, parfois ça pouvait tourner mal, mais non, c'était comment ridiculiser l'autre. Mmh. Et ça allait très très loin. Ça m'avait beaucoup
marqué. C'est resté dans les limites de la convenance, ça ne débouchait, ça m'étonne, ça ne débouchait jamais sur une bagarre physique.
Très, très rarement. Ça arrivait, ça c'était pour autre chose, mais moi je voyais beaucoup comme ça de joutes verbales. Alors ça attirait beaucoup de monde, forcément, parce que c'était, je dois le dire, c'était hilarant. C'était à celui qui allait casser l'autre. Et à un moment donné, au bout de 10 années d'échanges, il y en avait un qui craquait parce que l'autre avait dit quelque chose qui était vraiment cassant, quoi. Donc, bon, voilà, c'est... L'imaginaire était omniprésente, hein, que ce soit pour ces sortes de bagarres, ces jeux de mots, et puis le soir, je dirais presque au coin du feu, enfin c'est pas de feu, mais c'était un peu ça, quoi. Et donc, je pense que j'étais marqué. Et puis après, je suis rentré en France.
À 17 ans, donc, à peu près, si
j'ai calculé. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Et là, grosse déprime.
À cause du départ brusque.
Oui, puis je crois que beaucoup, quand ils sont revenus, qui ont... Tes coopérants sont revenus en France, ont une sorte de nostalgie de l'Afrique, parce que les choses étaient... Les gens, il faut savoir qu'en Afrique, les gens n'ont rien, mais ils sont heureux. Oui. Je vois en France, on a encore tellement d'avantages, et les gens se plaignent pour un petit bobo par-ci, ils ont mal aux cheveux. Et non, là-bas, ils n'ont rien, il y a la misère, mais... Enfin, on peut pas imaginer, quoi. Et non, ils sont... De toute façon, ils nous disent, ça sert à rien d'être malheureux, de toute façon, on est déjà malheureux, autant prendre ça parfois un peu à la rigolade, on se portera mieux. Et ils ont tout à fait raison. Donc j'ai fait une dépression, une sorte de dépression blanche.
C'était un départ volontaire ou non?
Oui, disons qu'à l'époque, mon père souhaitait qu'on ait des études un peu plus poussées. Il y avait un peu des limites, hein, après le lycée en Côte d'Ivoire. Donc c'était plus une motivation de mes parents à l'époque. Et donc je me suis un peu renfermé. Je faisais plus de sport, j'avais plus d'amis. Et... Ce qui m'a sauvé, je dirais, c'est les jeux de rôle. Voilà. Donc on revient à l'onirisme, aux histoires, et ça m'a appris un peu à...
Ça a précédé de l'écriture, pour pouvoir parler.
Voilà,
ça.
Tout à fait. Et à partir de là, j'ai découvert Le Seigneur des Anneaux, Tolkien, Lovecraft, Moorcock. C'était extraordinaire. Et moi, en plus, qui n'aimais pas lire à l'époque, parce que...
Côte d'Ivoire, tu parles de lecture, pas de jeu de rôle.
La lecture. Côte d'Ivoire, okay, on avait des profs. On était dans un lycée français. On avait des profs. J'avais des profs de français qui étaient pas, qui faisaient tout pour qu'on haïsse la lecture. Et j'ai découvert la lecture en fait en revenant en France et en découvrant les jeux de rôle. Ça a été pour moi une thérapie incroyable. Ça m'a rouvert au monde. Et à partir de là, j'ai commencé à un peu écrire à 20 ans. Je me souviens, j'avais demandé à mes parents d'avoir un ordinateur et à l'époque c'était très cher. Donc ils m'ont dit, écoute, si tu as un ordinateur, tu vas le gagner à la sueur de ton front. Donc j'ai fait des petits boulots. Et puis, je crois qu'ils ont été assez surpris, hein, finalement. J'ai ramené un gros PC, à l'époque c'était une machine
vraiment... Infernale.
Ouais, infernale, mais bon, moi j'étais heureux parce que j'ai commencé à écrire, ça c'est une chose inédite, un roman qui s'appelait L'Enfer Blanc, un roman médiéval fantastique, mais très mauvais, je pense. Hein. J'avais 20 ans. Qui s'inspirait beaucoup de l'univers de Tolkien, de légendes germano-celtiques. Et non, c'était très mauvais. Enfin, mon père l'avait lu, il m'avait dit, mais c'est bien ton roman, mais il n'y a aucune femme dans ton roman, il n'y a aucune histoire d'amour. Ah, c'est vrai qu'il y a un petit problème là. Non, mais voilà, c'était mon premier pas. Et puis après, je sais pas, j'ai fait des études d'architecture. Je me suis passionné par...
Par choix aussi, vraiment ?
Non, parce que je ne savais pas trop quoi faire à l'époque. Mes parents voyaient que j'étais pas mauvais en dessin, que... Voilà, que je débrouillais, que j'avais un raisonnement qui s'accordait à ça. Donc ils m'ont dit, tu feras archi. C'est vrai, j'aimais pas le lycée, j'ai jamais aimé l'école. Et donc c'est un petit peu par un peu le choix de mes parents. Et puis bon, je regrette pas parce que c'était intéressant. Ça m'a surtout appris une chose à construire, à structurer un projet. Donc un projet, ça peut être un projet de cinéma, un projet, un livre. Pour ça, je regrette pas du tout. Et puis, donc après, je me suis relancé sérieusement, on dirait, en 2005, où j'ai écrit L'Enfant du cimetière. À l'époque, j'avais sorti, parce que c'est très tôt de trouver une maison d'édition, hein, tu sais très bien, Jacques. Oui. J'avais sorti un petit peu à l'époque. Alors, c'est la grande révolution, c'était les éditions numériques. C'était, je sais pas si je dois le dire le nom, si on peut le dire, c'était Lulu, lulu.com. C'était une sorte de, pas vraiment édition, un imprimeur numérique où le gros avantage, c'est qu'on n'était pas obligé d'avoir, comme beaucoup d'auto-éditions, de commander 500 ou 1000 livres à des prix absolument fous. Là, on pouvait sortir 10 livres pour le prix de 5-6 euros. Et moi, je le revendais comme ça, 12 euros par le biais de MySpace à l'époque. Oui. Et je me souviens, c'est toi qui m'avais invité au premier salon. Mmh. C'était le salon de, c'était Encre de sang.
Mmh. Au musée des vampires.
Au musée des vampires, oui, c'était, oui. C'était mon premier salon, je me souviens très bien. Et à l'époque, le livre marchait pas mal. Là, j'en ai quand même vendu 300 par lieu de MySpace. Et quand même, apparemment, c'était pas un chiffre ridicule. Et puis je me souviens, j'étais venu avec un petit paquet de livres. J'étais venu, on avait bu un pot dans un bar à côté. J'étais revenu, et puis ma pile avait disparu. Je pensais qu'on les avait volés, quoi. En fait, non, au bout de 5 minutes, je cherchais, puis je voyais des gens qui avaient pris mon livre, qui voulaient absolument l'avoir. Et là, je me dis, bon, il y a peut-être quelque chose, là. Et puis voilà, puis après, tu m'as recontacté, je crois, un an ou deux ans plus tard. Oui. Tu m'as dit, écoute, j'ai des copains, là, ils sont en train de monter une maison d'édition, ils sont sympas, ils ont de l'ambition. Et au début, je me souviens, tu m'avais relancé, parce que j'étais un petit peu, puis mon petit truc, ça marchait bien, j'avais pas... Les éditeurs, je m'en méfie un petit peu, tout ce qu'on me racontait.
Il a raison, oui.
Et puis, j'avais envoyé à Jean-Marie donc le manuscrit. C'était une version imprimée du livre. Et puis, il m'avait rappelé une semaine après, il m'a dit, écoute, ton bouquin, j'aime beaucoup, ça colle complètement, j'ai une collection jeunesse. Voilà, et puis après, il m'a fait rencontrer Cécile Rastouille, qui maintenant Cécile Cloverit, c'est ça qu'on dit, qui a son nom d'artiste, et qui a fait là, une couverture absolument sublime, avec des illustrations intérieures. Et là, je remercie beaucoup l'éditeur, parce qu'il m'a donné carte blanche, notamment sur le... J'ai eu une collaboration étroite avec l'illustratrice. On a travaillé
ensemble. Ce qui est très rare, on peut soulever ça à ce point. Dans le monde de l'édition, généralement, l'auteur n'a pas souvent son mot à dire. Il ne connaît même pas l'illustrateur. Et puis, c'est quelqu'un, un illustrateur maison, qui fait des couvertures dans le ton de la maison. Tandis que là, il y a une véritable osmose.
Tout à fait.
Entre l'illustrateur et l'écrivain, ça donne quelque chose. Et puis, les couvertures sont très personnalisées. Et donc, chapeau, encore une fois, aux éditions, juste pour lire.
Voilà. Et puis, il y a des petites illustrations à chaque fin de chapitre. Ça, c'était quelque chose que j'avais demandé. C'était pas évident que ça se fasse. Finalement, ça s'est fait. Et je remercie encore beaucoup l'éditeur. Voilà. Alors, pour la petite histoire, l'illustratrice, ce que j'aime bien, moi, j'aime bien le côté un petit peu caché un peu l'histoire des livres. Et là, pour l'illustration, il faut savoir que Cécile, c'est une illustratrice fétiche. Et j'aime bien ce côté-là, un petit peu comme ça, underground. Voilà.
Alors, sur ça, on peut peut-être faire une première pause musicale avec, ton groupe, un de tes groupes préférés, Néo.
On va faire la pause, mais ça ne sera pas pour tout de suite avec Evolving
Creatures.
Non, on va prendre un autre morceau et on retrouvera notre ami Dr. Rome un peu plus tard.
Ok.
Voilà, petite pause.
On est
musicale.
Toujours prêt à découvrir quelque chose de nouveau.
Voilà, donc d'ailleurs, je vais en profiter pour rappeler qu'en dehors d'Evolving Creatures, on diffuse sur Radio Morpheus la musique Jamendo, qui est une musique libre de droit et des auteurs qui sont absolument inconnus. Voilà.
Et ça m'avait fait peur au départ, mais il y a un catalogue vraiment phénoménal et des auteurs de grand talent. C'est très très bien comme programmation. Ouais. Chapeau.
Voilà, on se retrouve dans quelques instants et je vous rappelle que vous êtes au cours de l'émission L'écrit du cœur, animé par Jacques Sirgent avec son invité ce soir,
Pierre Boulet. Thank you.
Bien, on y retourne, l'émission L'écrit du cœur avec Jacques Sirgent et son invité ce soir.
Pierre Brunet, donc, si on parlait de ce fameux livre, de ce livre fameux, donc L'enfant du cimetière, publié aux éditions Juste pour lire, dans la section jeunesse.
Oui.
Alors, la genèse.
C'est toujours très bien.
Le titre, l'histoire, tout.
Il y a plein de choses à dire sur le titre. D'ailleurs, ça a eu des. Il y a des petites anecdotes là-dessus par la suite.
Tu as trouvé le titre avant de commencer à écrire ou tu l'as trouvé après ?
Non, je l'ai trouvé après. En fait, j'ai eu l'idée en me promenant au cimetière Père Lachaise.
Source d'inspiration inépuisable.
C'était, je crois, en 2004-2005. J'étais à l'époque avec mon épouse. Et voilà, j'avais une idée comme ça un peu délirante. Je me baladais et puis je me dis, tiens, ça, c'est marrant, c'est vachement reposant un cimetière. Et puis... quand on balade comme ça, il y a des rues, on se croit dans un petit village. Je me dis, mais la nuit, il doit bien se passer des choses. Et puis, de fil en aiguille, je parle, et puis je dis, tiens, ça serait marrant que le cimetière, la nuit, s'anime et ça devient un vrai village, avec son poissonnier, avec son maire, des choses comme ça, que ça devient quelque chose de vivant. Et c'est comme ça qu'est venue l'histoire, en fait, c'est à partir de là, quoi. Et puis, donc j'avais...
Ça ne te démangeait pas d'écrire avant? Ben, disais pas, tiens, j'aimerais bien écrire quelque chose, mais tu ne trouvais pas l'histoire et...
Ben, disons qu'avant, j'avais écrit, j'avais 20 ans, L'Enfer Blanc, et puis j'avais laissé tomber, j'avais écrit des petites nouvelles.
Tu as lu, donc, lors des soirées, le Cénacle du Cygne à la Cantada aussi, très courte d'une page.
Voilà, mais ça, c'était, c'était bien après, mais avant, j'avais écrit, je m'étais un peu exercé à la nouvelle, et puis pareil, j'avais essayé d'envoyer à différents éditeurs. Non, ça ne nous plaît pas. Bon. J'avais envoyé L'Enfant du Cimetière à l'époque, et puis bon, ça n'avait pas marché. Ça avait failli avec les éditions Nuit d'Avril. Mmh. Mais à l'époque, ça n'est pas très bien, et c'est pour cette raison, après j'ai su que ça n'a pas pu se faire. Et puis voilà, donc comme je te disais, c'est vraiment à partir de 2005-2006, je me suis dit, écoute, là, c'est quelque chose qui me tient à cœur, je vais faire les choses sérieusement. Donc je suis mis à écrire. Alors, pour l'histoire, il y a un truc qui est bizarre. Hein, quand j'écris un livre, c'est pareil pour le prochain, on parlera peut-être un peu à la fin, qui sera à la rentrée normalement, c'est qu'il se passe toujours des choses un peu, je dirais, extraordinaires ou paranormales quand j'écris.
Je connais ça m'arrive aussi, oui.
Ouais, alors c'est peut-être, voilà, c'est. En plus, je suis un peu superstitieux sur les esprits, choses comme ça. Et ce qui est marrant, c'est que quand j'ai commencé à... En fait, j'ai dédié ce livre... j'avais pas encore d'enfant. Je voulais avoir une fille. Et j'ai dit, ça sera pour ma fille, quoi. Et quand j'ai commencé mon livre, mon épouse avait à l'époque... est tombée enceinte, mais vraiment à quelques jours près. Et j'ai terminé l'histoire. Et deux jours après... elle a couché, quoi.
Tu savais que c'était une fille ou pas ? Vous ne savez pas ?
J'avais dit à ma fille, je savais, j'étais certain que ça serait une fille. Mmh. C'était une fille, voilà. Donc, et puis c'était pour moi toute l'agitation du livre, ça a été pour moi, c'était à la fois un bonheur, c'était merveilleux. J'avais constamment la main sur le ventre à l'époque de mon épouse et c'était merveilleux. Il y avait un ressenti, il y avait une communion, il y avait quelque chose, j'ai l'impression qu'elle me transmettait quelque chose que moi j'envoyais aussi des
ondes positives,
voilà. Donc c'était pour moi un livre magique et je crois que ça se ressent parce que les gens qui le lisent, comme tu disais tout à l'heure, on avait du mal à classer le livre parce que c'est à la fois un livre pour la jeunesse, mais j'ai aussi au début surtout des adultes qui l'ont lu. Et qui ont il y avait une personne qui m'avait touché, qui était très dépressive, qui a lu mon livre et dit, écoute, ton livre parle de la mort, mais ça m'a redonné de l'espoir parce que tu en parles, tu le rends moins terrible. Alors ça m'a vraiment touché. C'est surtout qu'on vit dans un monde où la mort est cachée, où la mort est tabou, la mort est sale. On doit pas mourir.
C'est Léo Ferré qui chante ça, ne chantez pas la mort, c'est un sujet tabou.
Ah oui, voilà. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est l'éternelle jeunesse. On en est là, quoi. Alors que ça fait partie du processus naturel d'une existence. Donc voilà. Donc voilà un petit peu comment est né le livre. Puis après, ce qui s'est passé. Petite édition numérique. Sur MySpace, et puis après j'ai rencontré des éditions Juste pour lire, et puis le livre a pas mal marché, je crois. Et puis bon, après des salons.
Non, donc tu as parlé de, donc tu m'as dit que le livre était surtout lu par les adultes. Parle-moi des, du public qui vient faire dédicacer son livre dans les salons. Tu dis quelle tranche d'âge généralement?
Bah alors c'est vraiment alors ça dépend des salons. Les salons c'est vraiment spécial. Hein. Alors il y a tous les âges, hein, sincèrement. Et donc qu'est-ce que je disais, il y a vraiment tous les âges. C'est vrai que le fait qu'on ait orienté roman jeunesse attire plus les tranches d'âge entre 9 et 14 ans, ça je le reconnais, mais il y a beaucoup de, je vois beaucoup de mamans aussi qui viennent, qui achètent leur livre, qui trouvent un prétexte pour dire ah, ça sera pour mon, j'achète pour mon, pour mon fils ou pour ma fille, et en fait qui le lisent avant, qui me disent après. Bon, alors ce qui est vraiment sympa, c'est qu'après on garde souvent contact sur, sur Facebook, hein. J'aime bien dire les gens, donnez-moi vos impressions, le ressenti. Et les mamans souvent lisent avant le livre, et me disent ah, c'est super, c'est vraiment très poétique, est-ce qu'il y aura une suite? On demande souvent une suite, je sais pas, il y aura peut-être une, ça je sais pas, pour l'instant j'ai envie d'écrire autre chose, j'ai pas envie de me cantonner uniquement dans le roman jeunesse, le prochain ça sera un roman fantastique, plus pour adultes. Donc voilà.
Tu veux lire un petit extrait?
Oui. Allez. Alors, le premier chapitre, je lis quoi?
C'est suite en inspiration.
Alors, le chapitre n'est pas très long. Je sais pas si on a le temps. Il fait 4 pages. Alors, un bébé abandonné. Une ombre furtive traversa la rue parsemée de flaques. Souvenir d'une pluie récente. Les nuages sombres cachaient une pleine lune qui se rapprochait inéluctablement des 12 coups de minuit. Une horloge sonna quelque part dans la ville endormie, au moment où l'ombre escalada le mur du cimetière couvert de lierre. Le ciel se dégagea et la lune éblouit un instant le visage de la jeune femme. Elle se tenait baissée en haut du mur. Elle semblait terrorisée. Une épaisse cape la recouvrait entièrement et le capuchon lui cachait en partie ses longs cheveux noirs, brillants, qui dégringolait en cascade sur ses joues pâles. Elle tenait quelque chose dans son bras, caché sous la cape. Brusquement, elle leva la tête quand le tonnerre gronda dans le lointain. Elle ne perdit pas un instant, elle descendit le mur, en s'agrippant aux branches fatiguées d'un vieux chêne qui tombait contre le mur. Ses pieds sentirent de gros graviers. Une avenue se dessinait devant elle. La jeune femme pressa le pas. De chaque côté se dressaient des tombes, dont les stèles et les croix usées semblaient se courber sur son passage. Le vent souffla, emportant avec lui les feuilles d'automne qui dansaient en tourbillon mélancolique. La pluie tomba, à nouveau. La jeune femme grelottait. La pluie s'intensifia. Elle alla vite s'abriter sous un arbre posté entre deux tombes. Elle resta un temps sous ses branches, mais la pluie passait au travers et tout son corps tremblait. Elle serrait un peu plus fort contre son sein l'enfant qu'elle portait. « Que vas-tu devenir ?» Sa voix était triste. Elle pleurait en silence. « Il ne faut pas qu'ils te trouvent. Ici, ils ne te verront pas. » Son visage devint dur. Elle reprit courage. Elle sortit de son abri de fortune et marcha au hasard parmi les tombes. Un miracle se produisit. Non loin de là, elle distingua une sépulture isolée, en partie cachée par un bosquet d'arbres. L'entrée était fermée par une grille noire. Avec le vent, la grille grinçait et claquait contre le loquet. La jeune femme avança prudemment, craignant quelques vieilles superstitions. Elle poussa la grille. À l'intérieur régnait l'obscurité la plus totale. Elle inspecta l'endroit à tâtons. Il semblait en bon état. Des feuilles mortes sur le sol que la jeune femme balaya d'un coup de main, avant de poser délicatement son enfant. Elle le regarda dans le noir une dernière fois. Elle vit dans l'éclat de ses yeux un feu intérieur qui brûlait. Elle hésita, puis se retourna et disparut. La nuit était bien avancée lorsqu'un drôle de personnage coiffé d'un grand chapeau marchait en regardant attentivement les tombes. Il était constamment courbé. Il avançait sans bruit, flottant presque. Sa main effleurait les épitaphes. Elle semblait parfois les traverser. Ses doigts s'emparèrent des roses noires, noircies par le temps, et il les contempla de ses yeux transparents. Bon sang, comme elles sont belles. Je devrais en tirer un bon prix. L'étrange homme les fourra dans son sac à mandoulière, et on vit au travers toutes sortes de fleurs mortuaires. elles étaient toutes fanées. C'est ce qui les rendait si précieuses. Soudain, il leva la tête. Il crut entendre des pleurs. « Hein ? Si c'est pas un nourrisson, ça, je vais bien être encore pendu. » Il avançait presque en volant en direction des pleurs qui le guidèrent vers la sépulture de la famille Winston. Les Winston avaient déménagé du cimetière plus d'un an auparavant et n'avaient toujours pas trouvé repreneur de leur antique mais ô combien estimable caveau. L'homme au chapeau arriva à l'entrée de la sépulture. Il entra et vit le bébé. Il y voyait comme en plein jour. Il fut estomaqué par ce qu'il avait découvert. Un vivant, ici. Comment cela était-il possible? Les vivants. Les vivants ne font pas ce genre de choses. C'est inhabituel. Il prit l'enfant dans ses bras et sortit. Il ne pleurait plus. Le nouveau-né avait cessé de pleurer. Il regarda ce petit être fragile et fut bouleversé de sentir contre lui ce corps chaud où la vie coulait dans ses rivières intérieures. « Qui es-tu, toi ?» Il remarqua un bracelet accroché à son poignet. Il se pencha, car sa vue n'était pas très bonne. « Johan. Quel drôle de nom !»« Eh bien, Johan, que viens-tu faire parmi nous ?» L'homme au chapeau se mit à rire aux éclats. Mais son rire tomba aussi vite qu'il commença. Il devint grave. « On ne peut pas te garder ici. Ça serait de la folie !» Il regarda encore l'enfant qui lui fit un sourire amusé. « Pas de décision hâtive. Il faut que j'en parle au fossoyeur. C'est mon ami. Il saura quoi faire. » Et il s'envola dans le ciel avec l'enfant et tous deux disparurent derrière un bouleau blanc sous la pleine lune.
Et sur ce, on peut peut-être faire une deuxième pause musicale avec cette fois, peut-être, notre ami Dr. Home. Home sweet
voilà,
home.
Avec, oui. avec un micro, c'est beaucoup mieux. Oui, oui. Voilà, notre ami Dr. Home, ça marche. J'écoutais attentivement. Hein, je crois que c'est un bouquin qui va me plaire.
Merci.
Encore.
Oui, parce que l'ami Néo lit tous les livres.
Ouais, je lis tous les livres. Voilà. Et celui-là, d'ailleurs, Jacques m'avait dit qu'il me plairait et je crois qu'il a raison. Allez, on retrouve notre ami Dr. Home avec Heavenly Creatures et cet extrait de je ne sais quel album d'ailleurs, parce que j'ai été pratiquement tous. Et voilà, c'est pour vous, c'est maintenant sur Radio Morpheus. Voilà, on y retourne sur l'émission Les Cris du Cœur, qui d'ailleurs, je vous le rappelle, est une émission complètement littéraire, avec Jacques Sirgeant.
C'est pas facile à dire ça, tu peux le répéter très vite s'il te plaît.
Est une émission extrêmement littéraire.
Voilà, bravo.
Voilà, avec donc Jacques Sirgeant, bien sûr, et son invité ce soir qui est Jacques.
Pierre Boulet.
Voilà.
Et comme on annonce toujours quelqu'un, un tel à la guitare, un tel à la batterie et Néo à la technique, ce qui n'est pas à peu dire. Voilà.
Voilà.
Merci.
Merci.
Voilà. Alors on va continuer, Pierre, si tu veux bien, sur l'enfant du cimetière et tu pouvais raconter un peu, résumer l'histoire sans la déflorer totalement.
Oui. C'est vrai, c'est jamais facile de parler de son livre. C'est plus facile de parler des livres des autres. Pour résumer, je pense que c'est un peu l'originalité du livre. C'est l'histoire d'un enfant, un nouveau-né en fait, qui est abandonné par sa mère la nuit dans un cimetière. Et cet enfant va être recueilli, va être élevé et grandir parmi en fait les esprits du cimetière. Parce que dans mon histoire, les esprits sont quelque part bien présents. Et anime le cimetière la nuit. Et la nuit, le cimetière devient comme un village, avec ses animations, avec ses commerces, sa vie politique, voilà. Et donc il y a comme ça une autre réalité qui se met en place la nuit. Et cet enfant, qui est un vivant, va grandir avec ses esprits. Et pour lui, la réalité, ça sera ses esprits. Il va connaître que ça, parce que le jour, forcément, il dormira. Donc il connaîtra rien des bruits qu'il y a alentour du jour, jusqu'au jour où, pour une histoire d'extension du cimetière, il va être découvert par un architecte où il dormira dans une crypte. Et ils vont découvrir un enfant qui dort. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce gamin? Il a quoi, 9-10 ans? Et le gamin est effrayé, il voit des vivants, il n'en a jamais vu. Pour lui, c'est comme des spectres. Et donc, ils ne savent pas qui sont ses parents. Et donc, il va se retrouver, je ne vais pas tout raconter, mais il va se retrouver dans un orphelinat et il va très mal le vivre. Et voilà, il va se rendre compte que finalement, le monde des vivants est certainement moins bien que le monde qu'il a toujours connu, où il a grandi, des esprits. Voilà, puis après, je ne vous raconte pas, il y a tout un tas d'événements qui se passent avec un dénouement un peu inattendu.
Il y a sûrement un lien avec la rupture brutale que tu as connue en changeant de pays. Toi, on a l'impression le pays d'origine, oui. L'Afrique, ça t'allait vrai, et puis les spectres, l'irréel, c'est le pays où tu es revenu.
Bien vu Jacques, parce qu'on ne me l'avait jamais dit, et puis je n'avais moi-même pas remarqué. Oui, tout à fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui étaient au fond de moi et qui avaient besoin un peu de sortir. Oui, c'est un peu ça. Ouais.
Les épreuves, c'est ça le positif, ça sert toujours à quelque chose que tu n'as pas mis d'écrire, tu vois, que tu n'aurais peut-être pas fait sans ça. Ouais,
voilà. Exactement, oui. Non,
parce que j'ai connu ça aussi, c'est pour ça. Ouais.
Non, mais c'est pour ça, les voyages, ça, c'est très important, ça forge tout un tas de... Ça nous permet de grandir.
Mais est-ce que ça t'a suffi? Moi, j'ai surtout voyagé, c'est vrai, lors de ma jeunesse. Où t'as continué après, ce besoin?
Où j'ai continué un petit peu après.
Où t'as fait ton plein de voyage quand tu étais jeune?
Oui, c'est vrai qu'à un moment donné, comme j'allais pas bien, je savais pas trop ce que je voulais. Puis après, j'ai quand même un peu voyagé. J'étais pas mal aux États-Unis. J'ai un peu vadrouillé en Europe.
Pour le travail, tu m'en avais parlé de ça.
Pour le travail, aussi, oui. Ah oui, parce qu'à côté, oui, parce que je suis architecte de métier. Mmh. Et puis, je vais bien dire que je suis architecte le jour et écrivain la nuit. Oui. Mais parallèlement à ça, je travaille aussi avec des passionnés, une association qui s'appelle l'association Planète Mars, qui est une branche de la Mars Society, qui est en fait le chapter français de la Mars Society, qui regroupe en fait des ingénieurs du CNES, de l'ESA, des passionnés aussi.
La NASA aussi.
De la NASA aussi, hein, donc la Mars Society. Et donc en fait, avec Olivier Walter, on est un peu les architectes de l'espace, et on conçoit, on réfléchit sur des habitats planétaires, des habitats martiens. Et on a des subventions, on crée des maquettes, on travaille avec des étudiants en architecture et de design aussi. Donc on a eu des subventions pour faire des maquettes à une certaine échelle. Puis on était aussi dans le désert de l'Utah, où c'était une expérience fabuleuse, on était avec les caméras de France 2, où on est passé comme ça, pendant une semaine après le journal de 13h, un petit reportage sur ce qu'on faisait. Donc c'est des simulations en fait. Hein. Donc c'est dans le désert de l'Utah, il y a une base on est en scaphandre et on fait tout un tas d'expériences.
C'était faire croire qu'on a marché sur la Lune, par exemple.
Non, voilà, en fait, non, c'est pour valider en fait des expériences. Non, c'est très sérieux en même temps. Il y a presque un protocole militaire pour les civiers. C'est-à-dire les sorties de mission quand on est à l'extérieur, avec les scaphandres, tout ça. Tout ça est vraiment bien simulé. On passe une demi-heure. Au début, on mettait presque une heure pour mettre les scaphandres parce que c'est assez encombrant. Non, c'était très intéressant. Donc, en fait, pour résumer, je crois que ce qui m'intéresse dans la vie, c'est être émerveillé, quoi, constamment. Et, donc ça, c'est l'émerveillement, c'est le voyage, c'est l'ailleurs, c'est les découvertes. Et puis les découvertes, ça permet aussi de comprendre qui on est, peut-être d'où on vient aussi. Et mieux se comprendre, c'est mieux comprendre les autres, je pense. Voilà, c'est pour moi une ligne de vie, une ligne de conduite. Et l'écriture m'aide aussi. Voilà.
Mais là, ça se rapproche un peu avec ta formation, le travail que tu fais actuellement, peut-être du genre littéraire qui serait la science-fiction. Ça t'attire, ça, ou pas?
Oui.
Plus que fantastique.
Non, en fait, non, ce que je te disais, c'est que je suis attiré par tous les genres. C'est ça qui est terrible, c'est que je peux pas me limiter à un genre. Bon, il y a des auteurs qui sont dans un genre et qui aiment bien, qui veulent pas en sortir. On en parlera tout à l'heure. Là, j'ai un roman qui va sortir, toujours aux éditions Juste pour lire, un roman fantastique.
On peut dire le titre.
Le Manoir aux Esprits, oui. Avec une nouvelle inédite dedans. Et j'ai en projet aussi un roman de Dark Fantasy qui est terminé aussi. Et aussi avec Juste pour lire un projet de roman de science-fiction, polar science-fiction. Donc là, je veux m'essayer à tous les genres. C'est vrai que ça peut être un risque, ça peut dérouter le lecteur. Mais je fais ça avant tout pour le plaisir. Je cherche pas forcément à gagner de l'argent. J'ai un métier pour ça. L'écriture, c'est ma passion. Le jour où je devrais être obligé à écrire des choses qu'on m'impose, non, je ferai autre chose. Ou alors, j'écrirai pour quelqu'un d'autre, pour un autre éditeur. Je sais. Bon, voilà. Le but dans la vie, c'est pas de se répéter, je pense. Et puis j'ai toujours peur d'être aigri, quoi. Puis c'est un échappatoire, quoi. Le métier de l'architecture, c'est un métier qui est dur, comme beaucoup de métiers. Et pour moi, c'est mon évasion, quoi. Voilà.
Pendant la pause musicale, je me pose la question de savoir, ouais, on fait toujours les différences entre les genres littéraires, le fantastique, le merveilleux, le heroic fantasy. Et là, tu as sorti justement un autre genre qui est le dark fantasy. Comment est-ce que tu définirais ce genre littéraire?
Alors, c'est très vaste. Alors, je sais pas, je dirais, par exemple, le cycle d'Elric, pour moi, est un roman un peu de dark fantasy. C'est la fantasy, voilà, tout simplement, hein, qui est un peu sombre, un peu plus violente, un peu plus dure, je pense. Sauf que, bon, moi, quand j'écris quelque chose, j'aime bien un petit peu essayer de le mettre à faire ma sauce. J'ai pas l'ambition de renouer le genre, hein, j'en ai peut-être pas les capacités, enfin, je sais pas, c'est pas à moi de dire. Mais j'essaie d'apporter des nouvelles choses, tout en restant dans l'aventure. Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est raconter des histoires et que ça soit abordable pour la majorité des gens. Donc une écriture, j'essaie.
Bah, c'est l'ambition de l'édition Juste pour lire.
Voilà, c'est ça qui m'a plu aussi chez
la majorité des gens, mais écriture de qualité. Mais alors, sans penser aux aléas ni aux aspects commerciaux, marketing, si tu avais à faire rentrer ce roman, L'enfant du Cyprien, dans un genre littéraire, tu avais commencé en disant conte gothique. Là, oui. C'est jeunesse. Tu l'appellerais vraiment comment?
Là, pour moi, ça reste un conte gothique. D'ailleurs, à l'époque, j'avais appelé L'enfant du cimetière conte gothique en sous-titre, et ça avait pas mal interpellé les gens. Bon, après, il y a eu tout un tas d'histoires autour de ça.
On peut en parler parce que c'est quoi gothique?
Gothique, je ne saurais pas le dire en fait. C'est très vaste.
Bah, c'est généralement une connotation négative en France en tout cas.
Tout à fait. Donc. Alors que c'est vraiment, pour moi, c'est la culture avec un grand C.
Exactement.
Ça touche la musique, ça touche l'architecture.
Ça touche l'écriture, la calligraphie, qui est une invention française, voilà. Fin du 11e siècle, je crois. L'architecture gothique est aussi une invention française. Je suis en train de voir si on ne peut pas récupérer la littérature gothique aussi, qui soi-disant est née en Allemagne, en Angleterre. C'est faux. Vous avez trouvé quelques traces. En gros, quelques traces en France, le gothique serait typiquement français.
Alors, et quelque part, en France, on a des légendes, on a des gens incroyables, on a une histoire incroyable. Et en fait, on voit les Américains, c'est eux qui remportent tout, qui écrivent les meilleurs bouquins de fantasy, de fantastique, qui ont quelque part une histoire plus récente que nous. Et
là, mais je respecte beaucoup plus l'histoire des autres, en tout cas cette période-là qui est le Moyen-Âge.
Et nous, on l'a perdu alors qu'il y avait un vrai début. Il y avait le grand Jules Verne qui reste Bon, il y a aussi après des auteurs comme Pierre Boulle, oui, plus récemment, mais en France, on n'a pas, on a perdu, je crois, ce côté littéraire ou qui puisse s'exporter. C'est-à-dire qu'on a vraiment du mal à exporter la littérature fantastique.
Made in France,
c'est vrai. Made in France, c'est vraiment dommage. Et bon, il y a des auteurs qui s'y emploient. Je pense qu'il y a un peu, il y a quelques auteurs qui sont intéressants. Et j'espère que le renouveau du fantastique depuis, je dirais peut-être avec les éditions d'avril. Je pense qu'il a donné vraiment un petit coup de fouet à tout ça.
C'était un des rares éditeurs qui se consacrait uniquement.
Oui.
Au fantastique, beaucoup d'éditeurs ont plusieurs collections.
Mais c'était même le seul, courage. Je crois. À l'époque, c'était le seul.
Oui.
Et Saint-Fanté, bon, malheureusement, ils sont plus là, mais Saint-Fanté, en fait, d'autres éditeurs qui sont engouffrés dans cette branche. Et voilà, donc c'est pour moi un genre porteur et qui se demande à développer en France.
Voilà. Sur ce message d'espoir, peut-être. Néo, une petite pause
musicale. Ah, c'est ça que tu voulais me proposer. D'accord. On va le faire. Donc je vous rappelle quand
avec
même
une musique proprement gothique.
Oh oui, alors, on ne peut pas trouver plus gothique que ça. Ça c'est clair. Et avec un chat qui est un peu collant.
Qui est gothique aussi, Zigatouf.
Hein. Zigatouf est gothique. Hein. C'est notre mascotte. Je le rappelle, mais enfin apparemment tous les auditeurs le connaissent. Alors d'autres musiques. Une petite pause. Allez, on va faire une pause de 4 minutes.
Ça c'est précis. Oui.
Voilà, c'est précis. Hein. Et ça sera toujours devinez qui, devinez quoi. Ça sera
non, je ne sais pas. Dites-nous.
Notre ami Dr Rome avec son groupe. Et là, pour une fois, je vais le dire en français. Les créatures célestes.
Voilà.
À savoir.
Ça sonne aussi bien en français.
Ça
c'est
sonne
vrai.
Aussi bien en français. Voilà. À savoir quand même Heavenly Creatures. C'est parti.
À tout de suite.
Et maintenant, à tout de suite. Voilà, en plein cœur de la musique cosmique des Heavenly Creatures, Deuterome, les créatures célestes, pour ceux qui le préfèrent en français. On se retrouve dans notre émission littéraire du mercredi soir, animée par Jacques Sirgent, avec son invité,
Pierre Brulet. Alors on va enchaîner, si tu veux bien, sur un magazine gothique frénétique qui s'appelle La Salamande, qui est un fanzine de luxe, qui paraît assez irrégulièrement, mettons 3 fois par an, qui est concocté par l'ami et auteur Marc-Louis Questin, et où, dans lesquels tu publies régulièrement des nouvelles, si tu veux bien nous en parler.
Oui, ça fait partie aussi des belles choses, des belles rencontres. Marc-Louis, en fait, c'est marrant, tout s'est passé au musée des vampires, à Encre de Sang, parce que c'est la première fois que je le rencontrais aussi, et puis que je te rencontrais. Donc, c'était vraiment quand je repense à tout ça, un moment important dans ma vie. Oui, donc Marc-Louis est auteur, aussi éditeur de la revue La Salamande, une revue littéraire gothique et fantastique, vraiment d'excellente qualité. Il y a des textes vraiment. Et puis avec aussi des illustrations. Hein. Et donc il m'avait proposé, si tu veux, envoie-moi un texte. De toute façon, moi je suis comme ça, je suis cash. Si j'aime, je prends. Si j'aime pas, je te le dis. Je passe
par 4 chemins. Il y a au moins une nouvelle dans chaque numéro, je crois.
Voilà, pratiquement là. Oui, c'est vrai que là, depuis presque
un an. Numéro 15 qui vient de sortir. Oui.
Voilà, sur le thème de la luxure. Il y avait un numéro aussi précédemment, c'était sur H.P. Lovecraft, où je m'étais vraiment éclaté à écrire une nouvelle.
J'ai fait un petit article sur Lovecraft adapté au cinéma. Oui.
Oui. Et puis voilà. Et donc, Marc-Louis organise aussi les Cénacles du Cygne, donc à la Cantada.
Qui est un bar branché entre guillemets rue Moret dans le 11e arrondissement, dans le quartier des cafés branchés à Ménilmontant, qui est le plus sympa pour moi des cafés dits branchés. Voilà, s'il y a un endroit où aller, où on se sent bien, c'est surtout dû. Je dis toujours que c'est la clientèle ressemble en gros au propriétaire du lieu. Oui. Et Mickey est un grand ami, quelqu'un de très très bien. Et d'ailleurs, j'avais recommandé Canal Plus, avait fait 2 émissions là-bas aussi.
Oui, et d'ailleurs, tu fais des événements aussi à la Cantada.
C'est soirée vampire, littérature et cinéma, le deuxième samedi de chaque mois. Voilà, oui. Ouais.
Et donc, ce qui se passait, c'est que c'est toutes les derniers jeudis de chaque mois, hein, donc à partir de 20h. Et donc, c'est vraiment intéressant. Il se passe il y a tout un tas de choses. Il y a des chanteurs, des musiciens.
Danseurs flamenco.
On lit de la poésie, et puis moi je lis des nouvelles, parce que je ne suis pas grand poète, mais je raconte des histoires. Voilà. Et si je n'ai pas le temps, je m'arrête au moment où ça va donner envie aux gens peut-être de lire, de continuer.
Sadique.
Voilà. et voilà, donc c'est vraiment intéressant. Et puis aussi parallèlement, je publie aussi des nouvelles, parce que Marc lui aussi est un anthologiste. Donc là récemment c'était, alors il avait écrit une anthologie sur les fées, il avait écrit une nouvelle, Les Trésors de l'Arbre aux Fées,
aux éditions Trajectoire.
Et puis le dernier c'est Enquête sur les vampires, loups-garous.
Je vais te demander le titre exact, je ne sais pas dans quel ordre apparaissent les créatures. Enquête sur les vampires, démons
et loups-garous, quelque chose comme ça.
Fantômes et loups-garous,
voilà,
aux éditions Trajectoire. C'est un ouvrage collectif. Marc-Louis Questin a réuni une 20aine d'auteurs.
Voilà.
Donc tu as écrit une nouvelle très belle. J'ai écrit un dialogue entre un pénitent anonyme qui ne reste pas longtemps et un prêtre. Voilà.
C'est très original.
Ouais. Alors, je voulais te poser la question, tu racontes une histoire assez sombre, je voulais savoir si c'était purement fiction ou si c'était... Ça sent la réalité, mais à toi de nous dire.
Ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire cette nouvelle. J'avais commencé il y a longtemps, mais j'étais vraiment assez... J'avais à l'époque, je sais pas, 18 ans, je sais plus... Et j'avais envie de raconter cette histoire, mais il faut trouver une occasion pour le faire. Et là, c'était parfait pour moi. Et donc, cette histoire, en fait, on me demande, est-ce que ton histoire est vraie? Pour résumer, c'est une histoire, quand on est jeune, on a tous fait ça, des incantations. Voilà. Sauf que là, il s'est passé vraiment des choses. Le lieu était assez original, empreint d'histoire, du moins d'événements récents. Et voilà, donc j'ai voulu le raconter comme j'ai très romancé évidemment, hein. Il y a des choses que j'ai un peu rajoutées pour apporter un peu de suspense, mais je dirais qu'à 95% l'histoire est vraie. Donc voilà, mais pour en savoir plus il faut lire la nouvelle. J'étais à l'époque avec mon frère, des amis, et on a vraiment vécu ça ensemble. Je me souviens, tu vois, je parle de cette histoire à mon frère, il en a les larmes aux yeux. Alors que quand on connaît mon frère, c'est l'inverse de moi, c'est quelqu'un de... qui ne ressemble pas du tout, déjà physiquement, et puis quelqu'un de très cartésien, voilà, c'est un élément de ma vie, je voulais le raconter, et puis finalement, je crois que ça semble-t-il toucher les gens. Voilà, j'ai pas peur de parler, il se passe des choses, de l'invisible, il y a des ressentis, on sait pas trop ce que c'est, alors moi je l'interprète, et puis parfois on voit des choses ensemble, je l'explique pas, c'est tout.
Non, je suis tout à fait d'accord. Bah moi, quand j'étais allé faire un petit séjour en Louisiane il y a quelques années, qui sera sujet de mon prochain bouquin d'ailleurs, j'avais rencontré une jeune sorcière Wiccan qui me disait que les esprits dans les maisons, quand on passe dans une maison, locataire ou propriétaire, qu'il y a des esprits, si les esprits vous sentent bien, ils partiront. Ah. Et donc, si des gens ont ce genre de don et qu'ils changent souvent de logement, ils risquent de se retrouver suivi avec plusieurs et même beaucoup d'esprits qui vont cohabiter avec eux. Et ça m'est arrivé un an au musée, c'est un vendredi soir, je crois, j'ai reçu la visite de deux sœurs, jeunes sœurs serbes, une vingtaine d'années, qui ne sont pas revenues depuis, c'est assez mystérieux ça. Qui étaient assises, donc il faisait sombre, il faisait nuit, c'était en hiver. Et puis, elle me raconte qu'en Serbie, on croit encore aux vampires, que tout le monde y croit. Donc, il faut du courage pour admettre ces croyances-là en France. Même quelqu'un croit ça,
on traite de fou.
On en rirait, mettons. Et à un certain moment, elle se taise, elle me dit, vous n'entendez pas quelque chose dehors? Et j'ai dit non. Pas parce que j'entendais pas, mais c'est parce que ça n'était pas possible qu'il y ait quelqu'un dehors, parce que le musée du vampire était entouré d'une maison entourée de hauts murs, et toutes les portes étaient fermées. J'ai dit non, c'est pas possible. Elle me dit, si, écoutez, c'est vrai, il y avait quelqu'un qui marchait dans le jardin, dans l'allée, qui borde le jardin. En 3 secondes, j'ai atteint la porte, j'ai ouvert, il y avait personne. J'avais une lampe de poche, j'avais allumé, le jardin était éclairé, rien. Et elle me dit, oui, c'est quelqu'un qui nous suit, qui est tout autour avec nous. Et je me dis, tiens, pourquoi pas. Et j'ai d'autres éléments comme ça. Et Clotilde l'a fait, quelquefois, elle vient nettoyer les lieux. Parce qu'elle me dit toujours, c'est elle qui me l'a appris, ça, Clotilde d'Albepierre, que quand quelqu'un vient, que la personne soit bonne ou mauvaise, elle laisse des traces. Les murs s'imprègnent des traces, des souvenirs que laissent les visiteurs. Et quelquefois, ça peut être négatif. Donc elle vient régulièrement nettoyer. Et je sens la différence avant et après. Donc maintenant, je me suis mis à croire aussi.
Mais tu sais, ce que tu racontes, ça me renvoie à quelque chose. Il y a une équipe de scientifiques, alors je ne sais pas ce que ça a donné résultat, qui se sont imaginés, parce que pour moi la science, il faut de l'imagination. Les gens qui trouvent, pour moi, font partie de la même catégorie que des écrivains ou des artistes. Ils se sont imaginés pouvoir retrouver les sons de la Grèce antique, par exemple. Que effectivement, les murs s'imprègnent des choses et peuvent conserver la mémoire des gens qui ont vécu dans ce lieu. Et ils se sont dit tout simplement, ils ont pensé au système micro-sillon du disque, par exemple les potiers, par exemple en Grèce, par exemple, qui fabriquaient, qui faisaient de la poterie en fait. Tu vois bien comment ça marche, ça tourne. Mmh. Et ils imaginaient que le doigt pouvait laisser une trace ou un grain assez dur, et ça aurait pu laisser des micro-sillons. Et avec le son, ça aurait pu graver, si tu veux, conserver, archiver le son dans la poterie.
Dans la poterie, non, ou c'est les murs qui...
Non, sur la poterie, c'est-à-dire pendant la fabrication, si tu veux, avec l'effet tournant, un peu comme le disque, et avec le doigt qui passe, peut-être un petit grain de sable pouvait laisser...
Sur l'objet même.
Sur l'objet même, comme un disque, comme un micro-sillon. Et ils ont essayé de capturer ces sons. Bon, apparemment, ça n'a pas marché, mais je trouve que l'idée, déjà, est merveilleuse. Quoi. Ça pourrait être...
Ce n'est pas arrivé souvent. J'ai 2-3 personnes qui sont venues au musée qui m'ont raconté, ou en touchant un objet où je l'avais trouvé. Oui. C'était impossible à savoir, parce qu'on ne racontait pas ça. Donc, voilà. Donc, il faut pousser ces investigations. C'est peut-être
tout
possible.
Tout à fait. Ouais.
Alors, est-ce que tu veux nous parler un peu du prochain livre qui sortira aux éditions Juste pour lire, le sujet du moins du Manoir aux Esprits, dont le titre est très prometteur aussi.
Le Manoir aux Esprits, oui, mais alors c'est... Je vais encore raconter l'histoire de fantômes.
C'est pas la suite, mais on dirait presque avec le titre, on pourrait croire que c'est la suite de l'Enfant du Cimetière.
Pour moi, c'est le dernier livre qui va traiter sur les fantômes. Le prochain, c'est la Dark Fantasy, c'est autre chose, je ne veux pas me répéter. Je préfère changer un peu l'univers. Donc là, ça va encore parler l'histoire de fantômes. L'histoire paraît très banale, c'est l'histoire d'un héritage, un architecte. On parle encore aussi un peu d'architecte dans le fond du cimetière. Bon, c'est un petit peu, peut-être un peu moins dedans, qui a un héritage, un manoir en piteux état. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il n'a aucun lien de parenté avec avec cet héritage. Donc voilà, je peux pas trop en raconter. Mmh. Il se passe tout un tas de choses avec une fin. Ce que j'aime bien aussi dans mes quand j'écris, c'est avoir une fin qui se termine comme une nouvelle, avec une chute, mmh. qui laisse un peu pof. Je conçois un peu que comme ça, le roman, comme une longue nouvelle. C'est pour ça aussi que mes romans sont un peu courts. Il y a de ça, et aussi parce que je pense une écriture assez visuelle. Pour moi, c'est comme un script de cinéma. Et je veux pas de temps, quoi. Voilà. Je suis pas du. Bon, c'est peut-être un défaut, mais je suis pas du genre à écrire des pavés de 500, 600 pages. Voilà.
Alors, je voudrais. Oui. Abordant un peu revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure concernant le gothique. L'avantage du livre de Marc-Luc Questin publié aux éditions Trajectoire, c'est qu'il a fait appel à des auteurs, dont c'est la première publication,
oui.
jeunes auteurs, qui ont beaucoup de talent, et qui peuvent tous être qualifiés, en gros, de gothique. Mmh. Alors, j'ai lancé tout à l'heure, pas un cri, un appel au secours, mais une proposition sur Facebook, et le Musée des Vampires va organiser le troisième vendredi de chaque mois, une soirée, une nuit, 100% gothique. Alors j'ai bien insisté, littérature, musique, gothique, romantique, effrénée, frénétique. Le gothique qu'on ne trouve plus, mmh. avec une musique romantique du style Heavenly Creatures, que je mets entre parenthèses, et il y aura aussi, quant avantage, les tarots qui seront dispensés par Clotilde d'Albepierre et par le père Monseigneur l'évêque François Poublanc, qui était l'invité de La Fée Verte dans l'émission La Face Cachée de la Lune, lundi dernier. Donc, et ça a provoqué des réactions assez enthousiastes. Parce que bon, Facebook, il y a des gothiques, mais ils sont bien cachés. Mm. Donc je me suis dit, est-ce qu'il y a encore de la place pour cette vision? Je dis gothique romantique, c'est presque une redondance pour moi. C'est la même chose. Mais pour beaucoup de gothiques maintenant, je ne me reconnais plus dans le mouvement gothique moderne.
C'est ça, d'ailleurs, je voulais dire, préciser, parce que quand on parle de gothique, on imagine toujours des jeunes habillés en noir, avec du maquillage.
Ça reste, ça, on peut voir.
Ça reste, mais quand même, je précise, dans le Musée des Vampires, il n'y a pas que ça. Ouais. La plupart viennent, beaucoup viennent habillés comme tout le monde. Hein. Ouais. Comme je disais avant, c'est une culture, c'est pas que un look. Hein.
Mais c'est pas, bon, on associe encore une fois gothisme et satanisme, mais bon, il y a eu un documentaire qui est passé sur Arte la semaine dernière, dont une infime partie a été tournée au musée, beaucoup moins que ce qui avait été prévu initialement. Et il y avait une autre, donc la majeure partie du documentaire était consacrée à une frange extrême des gothiques vampires avec un Y, où ils étaient présentés plutôt, et même ridiculisés, comme on fait souvent dans des chaînes concurrentes comme TFA ou M6. Et où on a sorti hors contexte une des phrases que je dis en disant « moi j'aime bien Satan ». Le Parisien avait fait la même chose il y a 2 ans, en disant « Jacques Sirgent aime bien qu'on traite de sataniste ». Alors, j'avais dit à l'origine, sataniste au 19e siècle, et sataniste, un auteur qui écrit sur Satan. Maximilien Redouin, qui est un professeur de philosophie, théologie, diplômé de l'université de Columbia, de New York et de Montpellier, a écrit des livres très sérieux, des études approfondies sur le satanisme dans l'œuvre de Victor Hugo, le satanisme dans l'œuvre de Chateaubriand. Et sataniste, quelqu'un qui s'intéresse à Satan. Donc, le plus chrétien des auteurs du 19e siècle français, Chateaubriand, avec les martyrs, avec les Natchez, avec le génie du christianisme, avec les mémoires de Totombe, est un auteur sataniste. Le mouvement romantique français était appelé, le surnom du mouvement littéraire romantique français était appelé l'école sataniste. Victor Hugo était président d'honneur du mouvement sataniste français à cause de son poème La fin de Satan. Mmh. Donc en gros, je dis, si vous me comparez à Chateaubriand, à Victor Hugo, ça me flatte. Alors le raccourci terrifiant, ah oui. Mais Satan est quelqu'un d'éminemment sympathique si on se parle des traces qu'on trouve dans la Bible jusqu'au 19e siècle. En gros, on parle du fait que c'est des bandes de salopards qui n'osent pas assumer le côté délétère ou très méchant de leurs actes, qui ont besoin d'avoir un grand frère qui dise, tiens, c'est lui qui m'a demandé de faire ça, c'est lui qui m'inspire. Satan n'a rien à voir avec ça. Et quand je parle des gothiques qui aiment bien lire, par exemple, la Bible satanique d'Anton LaVey, qui n'a rien de satanique, qui est une Bible plutôt soft et même un peu molle, qu'est-ce qu'il cherche dans la Bible satanique? C'est quand Anton LaVey, la phrase clé de ce livre, c'est quand il dit, on vous gifle, il ne faut pas tourner l'autre jour. Il ne faut jamais se laisser faire, il ne faut pas se laisser abattre, il ne faut pas se laisser humilier. Par contre, j'ai appris récemment que lors de la cérémonie d'adoubement des chevaliers, on giflait les chevaliers, ça s'appelait la paumée. Mmh. Et en gros, il ne fallait pas réagir, c'était une marque d'admiration. En gros, c'est tu fais partie des nôtres. Donc en gros, il faut se méfier de certains gestes. Mmh. Donc voilà, mais les gothiques... Pas tous, il y a une frange gothique de gens éminemment respectables, et on dit toujours que les gothiques sont glauques, ils pensent à la mort. Ben, c'est des gens, s'ils souffrent, il faut rarement souffrir les autres. Donc en gros, je trouve ça éminemment respectable aussi.
Oui, c'est tout à fait vrai. Donc, je me souviens, j'avais été un pique-nique gothique à Versailles.
J'en ai entendu parler de ça, oui.
Et c'est, je dirais presque, c'est une ambiance de Bacoul. Hein. Les gens sont très respectueux.
J'en reviens à ce qu'on gothique. Alors, qui me dit pourquoi gothique, encore une fois, à la lumière de ce qu'on vient de dire.
Parce que ça parle de la mort. Ouais. Ça parle que de ça. Ça parle de l'amour aussi. Ça parle de l'amour au-delà de la vie, au-delà de la mort. Et cette rencontre avec ce petit garçon vivant et cette fille Aura qui n'est plus de ce monde. C'est l'histoire tourne autour d'eux, hein, en fait. Hein. Oui, ça, et puis on est dans un cimetière et puis ça se passe beaucoup la nuit. Il y a beaucoup de romantisme, je pense.
Bah donc, c'est forcément gothique. Voilà c'est ça. Et sur ce, peut-être, Néo, si tu es prêt, est-ce que le docteur Home est prêt aussi?
Bien sûr, docteur Home est prêt, moi je suis prêt. Donc, nous allons faire, si j'ai bien compris ta demande, une pause musicale.
Voilà, oui.
Voilà.
Mais indirect.
Indirect, et on reste avec... Even Weekly.
On s'en lasse pas.
Voilà, on s'en lasse pas. De toute façon, on le passe, on le diffuse beaucoup sur notre antenne.
Voilà.
Voilà, Evelyn Clutchers sur l'antenne de Radio Morpheus, notre ami Dr. Home. On se retrouve, bien sûr, pour la suite. Jacques.
La suite de quoi?
De l'émission.
Ah oui, c'est vrai.
Tu dormais?
Non.
La suite de quoi?
T'entends dire?
Alors, la suite de Les Cris du Cœur, animé par toi-même.
Bah, c'est ça, j'allais pas le dire avec moi, c'est ça. Vous voulez que tu le dises, oui.
Voilà, avec ton invité. Dont je
Pierre Boulet, là, je peux l'annoncer, en effet. Voilà. Alors, je commence généralement par ça. Là, je le dis au milieu de l'émission. Cette émission est dédiée à la femme que j'aime, comme tout ce que je fais.
D'accord, pardon.
Et j'ai une pensée aussi pour, parce qu'on s'est retrouvés il y a 15 jours à Roubaix, oui, pour une dédicace commune dans une librairie qui s'appelle L'Entre des Mondes, mm-hmm, qui n'est pas seulement une librairie. Il y a des BD, il y a des figurines. C'est un havre magique tenu par un couple, Cindy et Vincent, à qui on dit bonjour.
Oui, bonjour.
Et une entreprise courageuse, lancer une boutique comme ça. Mm-hmm. Et je leur souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. D'ailleurs, on y retournera.
Oui, parce qu'on a été accueillis de façon vraiment royale. Hein.
C'est on parle de Heroic Fantasy, c'était magique. Avec la cuisine, l'accueil, les chocolats, tout. Comme c'était Noël, c'était bizarre, c'était grandiose, c'était très, très, très sympa. Ah, et je voudrais dire un grand merci aussi, un bonjour à une jeune fille donc, qui a acheté un exemplaire de, je vais citer le titre, hein, Ange Vampire Démon, Les Combattants de l'Ombre, qui a lu la quatrième de couverture et qui m'a dit, en me regardant sans sourire, mais d'un air très sérieux, je vais maintenant pouvoir dormir la nuit. Et là, ça m'est resté cette phrase. Je me dis, tiens, c'est intéressant, et voilà. Et j'espère qu'elle peut maintenant dormir la nuit, grâce ou pas à ce livre. Voilà. Donc, on va continuer un peu. Tu souhaitais donner plus de détails, pas trop quand même, sur ton futur livre, aux éditions Juste pour Lire, Le Manoir aux Esprits.
Oui, j'avais pris un autre chemin pour parler un peu de mon style d'écriture, ma thème, un petit peu comment je travaillais mes histoires. Oui, comme je disais, l'histoire commence assez banalement. Ça raconte l'histoire d'un jeune architecte qui vit seul, qui est un petit peu...
Ce n'est pas autobiographique, n'est-ce pas,
voilà. Non, enfin, je ne suis pas seul, hein. J'ai quelqu'un dans ma vie quand même. Mais voilà, donc il va hériter d'un manoir en très mauvais état. Et il ne comprend pas parce qu'il n'a aucun lien de parenté avec ce manoir. Donc tout ce que je peux dire sur l'histoire, c'est qu'il va beaucoup voyager, cet homme, avec une personne qui va suivre dans ses périples. Et alors ce qui pour moi était intéressant, c'est que j'ai profité de mes voyages pour en faire un peu des thèmes de l'histoire. Donc tous les lieux où les protagonistes vont voyager parce qu'il y a toute une histoire, toute une quête, une mission qui leur est en fait va être confiée par un esprit. Je ne peux pas trop en dire là maintenant. Et ils vont être amenés à voyager à Palerme, donc aussi en Côte d'Ivoire. Ils vont découvrir donc les fameuses 8000 momies de Palerme. Alors ça, j'en parlais. J'avais visité des catacombes avec un éminent spécialiste qui me disait, écoute, c'est la première fois qu'un roman traite des 8000 momies de Palerme, à mon avis. Et donc j'en parle dans mon roman. Donc avec tous les détails et toute l'impression que j'ai eue, c'est vrai que ça m'avait marqué. C'était un lieu absolument incroyable où il y avait toutes ces momies qui vous regardaient et qui semblaient vraiment, vraiment présents, présents comme des vivants.
Et alors, remonte-moi, ces momies ou c'est des gens dont la mafia s'est débarrassée il y a quelques années.
Il doit y avoir un peu des deux. Et non, c'était...
Parce qu'on associe plus souvent la ville de Palerme à autre chose qu'à
peut-être,
des monuments ou des vestiges historiques anciens, c'est pour ça. Ouais.
Sauf que, donc en fait, il n'y a plus de momies depuis le siècle dernier, début du siècle dernier, donc voilà, c'est bien un lieu comme un musée. Et il y a des cadavres, enfin qui sont vraiment dans un état de conservation absolument incroyable. Et il y a d'ailleurs une petite fille qui est d'ailleurs mise dans un cercueil en verre pour la protéger, qui est dans un état de conservation qu'on n'arrive pas à comprendre. On dirait qu'elle dort, paisiblement. On peut même deviner, on peut même croire que son corps est chaud, que c'est absolument incroyable. Non mais c'est fou. Bon après, la plus grande partie des momies sont dans un état souvent en très mauvais état, mais
de décomposition
avancée, dit-on, chez les mais c'est le lieu qui conserve les morts n'ont pas eu de on a pas géré des produits pour la conservation. Non, c'est le lieu qui fait qu'ils sont dans un état de conservation absolument, pour certaines momies du moins, de façon remarquable, quoi. Et puis donc, parler de la Côte d'Ivoire, on va être aussi en, ça va se passer aussi un petit peu en Turquie, voilà, donc beaucoup de voyages, je dirais, en gros, pour résumer, les gens qui aiment bien les aventures à la Indiana Jones, ou au nom de la rose, des choses comme ça, bah, je crois qu'ils vont être, ravis. Donc,
Ils vont être servis. Voilà. Alors, est-ce que tu présenterais ça aussi, ce livre, comme appartenant au genre, par exemple, un conte gothique ou non?
Moi, je l'attribue plutôt dans le roman fantastique. On peut dire gothique aussi, quand même. Mais donc là, moi, je dirais, oui, c'est plus dans la veine du fantastique, je dirais, j'espère, à la française, avec, j'espère, une patte française, quand même, parce que faut un peu se décomplexer vis-à-vis des auteurs anglo-saxons. Voilà, quoi. Donc, et puis, l'histoire se passe en Normandie, donc, bon, voilà. J'en dirai pas plus.
Mais alors, tu as parlé de ce que tu écris, tu as parlé de tes premières lectures, Jules Verne, etc., et découverte des jeux de rôle quand tu avais 17 ans, mais oui. En gros, qu'est-ce que tu lis, Pierre?
Qu'est-ce que je lis?
Si tu as le temps d'encore lire avec.
Alors, ce que je lis, c'est vraiment assez varié, ce que je te disais, je peux dire que je lis de la science-fiction, je suis un passionné de Philip K. Dick, ce qui va vraiment au-delà, ils font aussi une barrière, la barrière un peu psychologique. Moi j'aime bien un peu les auteurs qui triturent un peu l'esprit humain, qui vont au-delà des apparences, donc comme je disais, comme Philip K. Dick, mais il y a aussi Lovecraft, où là on est un peu, je dirais, moi à chacun de ses livres j'avais l'impression d'être suivi après, hein, pendant un certain temps. C'est des auteurs assez intéressants. Non, je lis vraiment de tout. Il y a peut-être, j'aime beaucoup aussi les biographies. Je trouve ça très intéressant.
D'écrivains, d'hommes politiques,
D'écrivains, plutôt de groupes ou de chanteurs. Ouais. J'avais adoré là. À une époque, j'étais très Jim Morrison. J'aimais beaucoup toute son histoire, son parcours, ce côté un petit peu. Un peu comme un espèce de demi-dieu sur Terre, avec un charisme de folie. Et, voilà, puis bon, ce que je disais tout à l'heure, des auteurs comme J.R. Tolkien, Moorcock, ou Frank Herbert pour le cycle de Dune, voilà, c'est assez varié, quoi.
Pas de roman policier?
Moi, alors, je commence à m'intéresser au polar, effectivement, mais et je crois que je veux. C'est un projet de polar science-fiction. Je me force un peu à m'y mettre, mais c'est quelque chose qui m'attire, et je crois que ça va me faire découvrir réellement ce que c'est et aimer vraiment le polar. Et puis alors, ici, il y a un genre que j'aime pas trop, je dirais les romans qui traitent du quotidien. Bon, on connaît le quotidien. Ça m'intéresse moins. J'aime bien qu'il y ait une touche de fantastique, de choses, hein, comme ça, qui sort de l'ordinaire, quelque chose de magique, quoi.
Pour ça, je dis que je n'aime pas Zola, ça étonne toujours. C'est humainement respectable et bien écrit, mais je ne supporte pas Zola.
Ah ouais, oui, j'aime des auteurs anciens, Maupassant, bon, c'est fabuleux, quoi. Là, on est vraiment dans l'imaginaire.
Bah dans le côté moche, sordide de la vie aussi, mais c'est autre chose, ça.
Ouais.
Mais c'est comme. Bon, j'ai une admiration particulière pour Barbet d'Aurevy, mon écrivain fétiche, avec Clotilde Dalme-Pierre. Et Barbet disait bien, il ne traite que des héros, tous ces personnages sont. Des nantis, ils n'ont aucun souci financier, ce qui fait qu'ils peuvent se consacrer à leur passion, c'est tout. Et ce qui les intéresse, c'est les passions, la passion amoureuse. Et un peu comme l'amour contre au Moyen-Âge qui ne concernait que les chevaliers et les dames, parce qu'en gros, on ne peut pas aimer quand on n'a pas les moyens d'aimer. En gros, on se débarrasse des soucis matériels et là, on peut se concentrer uniquement sur ce qui intéresse. Ça, voilà. Donc, ouais. C'est ça, très peu d'amour dans Zola. Donc, voilà.
Et puis, c'est encore vrai de nos jours.
Ouais. Hélas. Et ça va pas. Ce n'est pas prêt de changer.
Non.
Alors. Je voudrais en revenir à. Peux-tu nous parler d'une ou deux nouvelles que tu as écrites pour cette fameuse revue, sinon revue pas encore fameuse, mais qui va le devenir, La Salamandre?
Ah oui, ben écoute, jusqu'à présent, il n'y a qu'une.
Parce qu'en gros, c'est Marc Riquestin qui impose un thème.
Tout à fait.
Et donc, tu écris à la demande, en quelque sorte, les gens qui écrivent dans cette revue-là. Voilà.
Donc, faut savoir que.
Est-ce que c'est un problème ou pas?
Non, effectivement, je ne gagne pas de sous, mais comme je suis un jeune auteur, le but d'un jeune auteur, c'est de se faire connaître et être modeste. Hein, voilà.
Mais est-ce difficile de s'adapter à un thème? On t'impose le thème. Là, la luxure. Ça doit être tellement dur d'écrire sur la luxure, n'est-ce pas? Dis-moi tout.
Je m'en suis sorti parce que là, j'ai introduit un peu de fantastique et de science-fiction. Voilà. Par contre, j'ai écrit une nouvelle pour un magazine qui s'appelle Fétichique. Mmh. Une sublime, c'est un sublime
fandine. Ah, tu me parlais de nous les détails, oui.
Oui, donc ça, je reviendrai après la salamandre. Mmh. Je vais en parler parce que c'est, pour moi, ça va au-delà d'un fanzine, tant la qualité est incroyable. Mmh. C'est une revue tout en couleurs qui parle de la mode fétiche, hein, sur le thème du latex, des choses comme ça.
Et qui était en vente, entre autres, au Japan Expo, tu es allé la semaine dernière.
Voilà, ouais. qui a fait un succès absolument. Enfin, j'ai jamais autant dédicacé. C'était un peu un coup de poker et ça a très bien marché. Non, mais la revue est magnifique. C'est que d'illustrations faites par différents auteurs.
Pas de texte, si.
Alors, très peu de texte, dont une nouvelle, la mienne.
Oui, c'est pour ça que je disais, oui, ça m'étonnait.
Qui s'appelle Les Poupées, oui. Donc une nouvelle fantastique sur le terme du fétichisme. C'était pour moi tout nouveau, j'avais jamais expérimenté. Et j'avoue y avoir pris un grand plaisir. Et pour moi, c'est aussi un thème, c'est un exercice de style, c'est un challenge pour moi. Oui. C'est vrai que c'est pas ce que j'adore le plus, je préfère avoir cherché une idée puis après, et après la travailler, mais je pense que entre les livres, il faut de temps en temps écrire des nouvelles pour avoir une actualité. Oui. Et puis quand on a plusieurs nouvelles, ça peut faire aussi un livre. Oui.
Et tu as aussi, donc il y avait un projet que vous avez réalisé avec Dr. Home et Heavenly Creatures, d'un texte mis en musique, si tu veux en parler aussi.
Oui, un petit peu, effectivement. Il se trouve que j'avais lu mon texte, donc Les Poupées à la Salamandre, et puis ça avait intéressé quelques personnes. Et il se trouve qu'une dame, Morgane, et qui était présente, a vraiment beaucoup aimé ce texte. Et puis de là est née une adaptation en une petite pièce de théâtre, mis en musique par une petite créature, et qui sera joué, non, si tout se passe bien, donc jeudi 28 juillet à la Cantada, donc une pièce qui sera jouée par Lady Morrigan et puis Marc Lucestin, qui seront costumés. Donc les dialogues seront déjà mis en fait en boîte avec la musique de Richard. Donc ça sera un peu comme un théâtre mimé avec une bande son et puis le texte qui sera lu continuellement pendant environ une dizaine de minutes. Oui. Donc j'invite les gens à venir nombreux.
Oui, parce que j'ai déjà eu une pré-écoute en quelque sorte. C'est vraiment intéressant. Et la musique est magnifique. Ah, comme toujours.
Musique avec, extraordinaire. Si on est fan de John Carpenter, en plus j'ai un Carpenter qui composait lui-même sa musique.
Il l'a fait tout le temps. Il l'a fait pour Halloween, il l'a fait pour Assault sur Precinct.
Oui. New York 1997. C'est magnifique, c'est des musiques extrêmement minimalistes, mais avec une mélodie entêtante.
Obsédante, exactement.
Obsédante. Ouais, ouais. Et ça, j'adore, moi, ce côté bricoleur où je maîtrise tout et ça donne une patte. Mmh. On a le cachet de l'auteur. Voilà. Pour moi, il fait partie des grands, quoi. John Carpenter, c'est. Voilà.
Bon.
Je reviens à la salamandre un petit peu rapidement.
Oui,
oui. Donc la salamandre, c'est une nouvelle à thème. Et puis finalement, c'est. Donc, j'en ai une écrite qui s'appelait, je sais plus, Trois Amours, c'est une histoire médiévale fantastique. C'est une histoire sur le thème de l'amour, mais là, avec une fin un petit peu inattendue. Il y a une nouvelle sur le thème de H.P. Lovecraft, qui m'a beaucoup plu. Donc là, une nouvelle. Un polar fantastique. Et là, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ça. D'où, quand Jean-Marie m'a dit, écoute, j'aimerais bien travailler avec toi sur un polar, une polar fantastique ou science-fiction, j'ai dit, bah ok, donc normalement, dans un mois et demi, deux ans, le roman sera prêt.
Et tu as aussi, tu me diras si tu veux en parler sur l'antenne, parce qu'on en a parlé hors antenne, de l'accueil, la réaction de ta famille quant à ce que tu écrivais.
Alors,
parce que souvent, tu es un architecte respectable et respecté, qui a réussi. Donc, en gros, quand tu as dit à ton entourage que tu écrivais, est-ce que c'est le genre de livre que tu écrivais qui pouvait poser problème ou le simple fait que, tiens, pourquoi est-ce qu'il écrit, puisqu'il gagne bien sa vie ? La première réaction, c'était quoi ?
En fait, la première réaction, c'était quand j'étais au lycée. Non, mes parents ont toujours été vraiment adorables avec nous. Enfin, j'ai un frère et une sœur. Ils ont toujours, au contraire, ouvert aux autres, à la culture, et ça, il n'y avait aucun problème. Ils avaient une obsession, c'est que j'ai au moins le bac. Voilà. Et tu vas jusqu'au bac, après, on verra, fais des études, et j'en remercie, parce qu'il y a un moment donné, comme beaucoup, on a envie de tout lâcher, parce qu'on veut faire la fête et compagnie. Et j'aurais l'idée, mais moi, je veux écrire aussi. Hein. Ah, bah écoute, tu veux écrire, mais finis tes études. Je fais mes études, après, je fais mes études d'architecture, j'ai essayé d'écrire un petit peu, j'ai pas toujours le temps. Et puis j'ai commencé à écrire. Et puis quand j'ai dit à mes parents que j'allais déjà un peu m'auto-publier, ils me disent bon bah c'est bien. Et puis mais bon, ça laissait un petit peu de marbre comme ça. Jusqu'au jour où j'ai dit bah j'ai trouvé un éditeur. Et au début ils y croyaient pas trop. Je sais
pas. Ils n'avaient pas lu le livre avant.
Ils l'avaient lu un petit peu, mais c'est pas trop leur genre. Ouais. Donc il faut dire que je dirais que mon meilleur critique c'est mon père qui dit tout ce que je fais parce que en fait il aime pas mes livres. Il aime pas trop mes histoires. Parce que c'est pas trop son genre, mais il est tellement critique que justement il a l'œil juste, il voit les choses qui vont pas. Et le jour où il me dira tiens Pierre, vraiment c'est super ton livre, là je sais que j'aurais écrit un chef-d'œuvre. mais bon, non. Mais
est-ce que certaines nouvelles ont trouvé grâce à ses yeux?
Il lit tout. Moi, ce qu'il me dit, oui, que j'ai voulu bien, que ça avance bien, mais bon, je respecte sa pensée, c'est pas son genre. Voilà, il me dit non, c'est bien pour ton public, mais il y a autre chose, voilà. Donc voilà. Et puis, non, je crois qu'ils sont contents. Ils voient que ça m'équilibre beaucoup. Que c'est, je crois que j'ai vraiment trouvé ma passion depuis que j'écris, surtout que depuis que je suis publié. J'adore tout ce qui est autour du livre, que ce soit la conception du livre, les salons. Mais c'est vraiment, je dirais que j'ai trouvé ma voie, quoi. C'est vraiment, c'est mon truc.
Alors, juste un dernier mot sur, donc, dans l'ordre, tu as le Manon aux Esprits qui va sortir, tu as le roman de Dark Fantasy, donc tu ne veux pas dire grand-chose.
Je ne veux pas trop en parler parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Il y a,
oui, parce que oui, on en avait parlé.
Bon, le roman est terminé, hein, il est en correction.
Alors, j'espère que les gens comprendront un demi-mot. L'Enfant du cimetière est un livre original, aux deux sens du terme. Et le titre est unique, le titre est le premier, tout titre qui ressemblerait, c'est une imitation. En gros, voilà. Et c'est toujours ça, comme tu as beaucoup d'imagination, c'est vrai que c'est très difficile de protéger une idée, mais toutes les idées ne sont pas bonnes à exposer. Donc voilà. On va attendre, ce sera certainement très bien aussi. Et pour le roman de science-fiction, non, même chose.
Je ne peux pas trop en parler, disons que là, c'est vraiment pas tout de suite, je commencerai à écrire cet été. Il y a des choses que je dois mettre en place, hein, donc je ne peux pas en parler. Bon, le roman de Dark Fantasy est terminé. Le peu d'écho que j'ai eu, c'est plutôt un très bon retour. Voilà, donc je peux dire que c'est dans l'esprit d'Art Fantasy, mais avec quand même, j'essaie d'apporter une nouveauté. Il n'y aura pas de dragon, là. C'est vraiment, il y aura des créatures sorties de ma petite tête, et puis que j'espère.
Alors ça, il faut protéger, ça, c'est une avancée.
Non, mais il y a beaucoup de choses, je pense qu'il y a des choses pour intéressantes, il y a des contextes, il y a des lieux qui visuellement, je pense qu'en film, ça serait un peu de la folie. Bon voilà, donc pas tout de suite, j'espère qu'il sortira, donc il y a le manoir, les esprits qui sort donc à la fin de l'année, et puis après le roman de Dark Fantasy.
Et la prochaine revue de numéro 16 de la Salamandre, est-ce que tu sais, non, d'habitude il choisit ça un peu au dernier moment, tu ne connais pas la thématique.
Si, le thème, mais j'arrive pas à m'en rappeler, je dois l'avoir ici sur mon téléphone.
Oui. C'est ça, c'est utile un téléphone.
C'est utile, ouais.
Pas seulement pour téléphoner.
Alors...
Sinon, si le thème m'inspire aussi, tiens, je proposerais bien quelque chose.
Si on a juste 30 secondes.
Lovecraft, la luxure, Frankenstein, oui, a fait, je crois.
On a 30 secondes, voilà.
Ouais. 30 secondes.
Je vais meubler. Il n'a pas encore fait le vampire, je crois.
Alors.
Ouais, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio Morpheus.
Merci Néo, ça va, ça remplit.
On va remplir sur l'émission,
voilà.
L'écrit du
cœur. Ça sera un explore les différentes facettes de l'expressionnisme allemand.
Ah oui,
voilà.
Oui, le problème c'est que bon, on est en train de revenir là-dessus en disant que l'expression initialement n'existe pas. C'est spécialiste du cinéma, que c'est pas, on a beaucoup exagéré, c'est très beau,
c'est emmerdant.
Mais que Fritz Lang, c'est pas vraiment, c'est parce que la première définition de l'expressionnisme, ce qui était assez simple et assez tentant et assez séduisant, c'est qu'une disproportion des décors par rapport au personnage, qui fait sortir que les personnages sont écrasés par le décor, comme quelqu'un, un héros de livre serait écrasé par le destin. Et dans un de mes films fétiches, qui est le professeur Unrat, l'ange blanc, Blau Engel de Jacques Sternberg, qui est le professeur qui est l'histoire d'un professeur de collège qui tombe amoureux d'une fille de rien, d'une artiste itinérante dans un spectacle, et qui va être écrasé par cette femme, dont il va tomber, qui va le vampiriser littéralement. Et quand il se promène dans les rues, c'est des maisons beaucoup plus élevées que ce qu'on trouve dans la réalité, et ce qu'on est écrasé par le décor. C'est ça, la disproportion entre la réalité objective, la réalité du décor et la réalité des personnages. Et c'est très tentant, mais il paraît que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et en gros que ça ne correspond pas réellement. Parce qu'il y a eu très, très, très peu de films proprement expressionnistes.
D'accord. Je voulais juste rajouter une parenthèse. On parlait de la salamandre, des éditions Trajectoire. Je voulais faire aussi un petit clin d'œil à Frix, aux éditions Frix, qui est un superbe fanzine couleur de
Dijon. S'appelle, qui s'écrit F-R-E-A-K-S et non c'est pas ça. F-R-I-C-S. On peut se tromper, voilà, c'est ça.
Et donc, qui m'avait donné ma chance. Au début, il commençait, j'avais écrit une nouvelle, ça a marché. Et j'ai participé au troisième numéro. Ils ont des illustrateurs de folie, des textes avec des auteurs montants.
On trouve où cette revue? Elle continue d'exister?
Bien sûr, oui. On est au numéro 6, je crois, qui est distribué sur Dijon et qui est quand même tiré à 500 exemplaires. Pour un fournisseur, c'est quand même pas mal. Vraiment de très bonne qualité. On trouve un petit peu à Paris, je crois. Je sais plus dans quel. Enfin, ils ont un site.
Vous tapez Frix.
Frix, ouais. Et puis vous allez trouver. Hein, c'est la revue de l'étrange, je crois.
Ne pas confondre avec le film de Todd Browning. Voilà. Magnifique.
Et puis, je voulais dire ça, puis autre chose, mais j'ai oublié.
Ben on va trouver ça après peut-être une dernière pause musicale de l'ami toujours Heavenly Créature totalement céleste.
Créature totalement céleste, petite pause musicale. Oui,
qui sera donc le compositeur attitré des soirées gothiques du Musée des Vampires à partir du mois d'août, le troisième vendredi de chaque mois.
Et puis on va rappeler que Dr. Home est animateur sur cette station tous les vendredis. Depuis déjà quelques temps.
Sauf,
bien sûr.
Vendredi qui vient, parce que nous serons tous
à
Audincourt, au Bloody Weekend numéro 2, Festival du film de genre. Il y aura Pierre aussi, Clotilde, Jean-Marie, consacré, nous, on a une journée vampire consacrée, et aussi, on a trois procès de sorcières. Il se trouve que. Donc, c'est une moitié représentation théâtrale, moitié délire mystique, mais basé sur la réalité. Donc, Clotilde l'a fait, la sorcière sera mise en accusation, je serai l'avocat général, je serai particulièrement ignoble, ça va être très dur.
Ça sera filmé ou pas Clotilde.
Ça sera très certainement filmé, oui.
Ça sera filmé et puis normalement...
Il y aura des preuves et enregistré.
Ça doit être enregistré parce qu'on devrait, si la qualité sonore le permet, oui. De le diffuser sur cette antenne et ça promet.
Voilà. Et tu oublies qu'on sera à la FNAC de Mulhouse. Hein,
FNAC de Mulhouse, samedi à 15h pour dédicacer bon nombre de livres. Publié aux éditions Juste pour lire.
Ah ben ça, il faut le rappeler. Donc voilà. Redis-le.
Comme c'est Audincourt, le Bloody Weekend, deuxième édition, le 8, le 9, le 10 juillet prochain, c'est-à-dire la semaine. Après ce week-end vient. C'est ça, décidément.
Et la FNAC de Mulhouse, donc
de Mulhouse. À partir de 15h.
Voilà, samedi. C'est ça. Donc, samedi, projection de films. Il y a des quiz qui est pas mal. On projette des films. Il y a une petite anecdote l'année dernière, je n'étais pas au courant. Ils ont projeté 10 extraits de films de vampires et il y avait un quiz, il fallait deviner. On avait des papiers. Et on dit, Jacques, tu seras définitivement grillé pour toute ta vie si tu ne gagnes pas le quiz. Et là, je me suis dit, j'ai un instant de panique. J'ai dit oui, parce que j'ai une collection phénoménale. J'ai pas 900 films de vampires, mais les dernières nouveautés, je ne les regarde pas toutes. Hein. Et là, j'ai eu 9 sur 10. Ouais, on était deux, une jeune fille, et puis je me suis trompé sur le titre d'un film de Jean Rollin.
Et donc, tu n'as pas gagné.
Qui était Lèvres Rouges, ici, parce que personne n'avait trouvé.
Ah oui, d'accord.
Et j'avais appelé ça les démoniaques. Voilà, mais et il y avait le choix était bien. Il y avait quelques trucs connus. Il y avait Morse, le film pseudo grandiose. Il y avait Lost Boys, la génération perdue. Il y avait Nosferatu, bon, bien sûr. Mais voilà. Et là, cette année aussi, il y aura beaucoup de quiz. Et ça, c'est très original. Donc voilà. Avec donc, annonçons.
Avec donc, voilà. L'anglais et moi, hein. On fait comme on peut.
Et créature céleste.
Et puis tout ça, c'est avec le soutien de Radio Morpheus.
Voilà.
Voilà, on se retrouve pour la suite et la fin de notre émission littéraire hebdomadaire animée par Jacques Sirgeon, à savoir l'écrit du cœur, et qui va nous rappeler une dernière fois le nom de son invité.
Pierre Brulet, qui va nous parler donc de son actualité littéraire et des salons qu'il va certainement faire dans les mois qui viennent.
Oui. Alors les salons, oui, effectivement. J'ai le Bouledi Weekend qui arrive ce week-end. C'est un festival de films de genre avec des auteurs.
L'année dernière, c'était plus axé sur le gore, mais ils ont ouvert beaucoup plus.
Oui.
Et essentiellement consacré aux courts-métrages, mais oui, il y a des courts-métrages vraiment extraordinaires. Oui. C'est généralement considéré comme un genre mineur, ce qui est faux. Et les gens, de plus en plus de gens se passionnent pour les courts-métrages.
Oui, puis d'ailleurs, il y aura des réalisateurs, des acteurs, même un assez connu, hein, qui joue.
Ah, il y a Philippe Noin qui fait un type adorable, qui fait des personnes ignobles, des tueurs en série, dans un film qui s'appelle Haute Tension, par exemple, qui a été un type adorable, extraordinaire, qui fait du théâtre aussi. Oui. Il est grandiose, ça va être. Il y a une ambiance extraordinaire, il y a une gentillesse. Il y a, la public est composée essentiellement, entre guillemets, de métalleux. Mais qui ont, là, quand j'ai fait une conférence sur Vampis l'année dernière, ils m'ont dit, tiens, ils m'ont demandé, la plupart des gens, vous pouvez pas venir avec un prêtre pour nous parler du bien et du mal. Je me dis, tiens,
c'est original.
On va débarquer non seulement avec un prêtre, mais avec un évêque, et donc avec une véritable sorcière, une fée, donc voilà.
Alors,
tout y est.
Pour les salons, je peux conseiller, j'ai un Facebook, hein, vous tapez Pierre Brulet, vous me demandez en ami, et je mets un peu l'actualité, un peu de ce que j'ai. Et j'ai aussi un site internet qui est www.pierre-brulet.com. Vous avez mon agenda et c'est vrai, je fais pas mal de salons. Là, ça va se calmer parce que j'en ai un peu besoin. Mais la rentrée va un peu démarrer sur le chapeau de roue. À peu près en moyenne, deux salons par mois. Et puis, donc, à la rentrée, donc là, je suis très fier de participer avec les éditions d'Uriez qui publie Contes du Monde. Hein, c'est un recueil de nouvelles, c'est un appel à texte. Puis j'ai la chance d'être sélectionné et qui va s'appeler Le Long Puits. Et là, c'est un petit clin d'œil à mes souvenirs d'Afrique parce que c'est une nouvelle fantastique entre guillemets africaine. Hein. Je dirais pour résumer, comment s'appelle déjà ce dessin animé avec un petit enfant là, j'ai un trou de mémoire, Kirikou. C'est du Kirikou pour adultes. Oui. C'est-à-dire avec des il se passe des choses un peu horribles. C'est un conte, c'était le thème Conte du Monde, et qui va sortir, je crois, pour novembre ou décembre 2011. Et ça, je suis très fier parce que l'édition du reste, pour moi, c'est une maison d'édition un peu aussi, que j'admire beaucoup, qui est pour moi un peu la relève de ce qu'a été les éditions Nuit d'Avril. Hein, et puis, ils ont d'excellents auteurs, et ils ont des couvertures magnifiques. Je soutiens un petit peu Alexis.
C'est très bien.
Voilà.
Et donc, on peut annoncer, je te remercie d'être venu.
Oui, c'est moi qui te remercie. Puis je vous remercie aussi Radio Morpheus et puis Néo.
Hein, merci.
Tu
sais, nous, on est là pour justement essayer de faire découvrir les auteurs, enfin, plein de choses. Voilà, notre slogan, c'est la liberté d'expression n'existe plus. Nous la réinventons pour nous, n'est-ce pas, Jacques?
Voilà, exactement.
Et on essaye de faire pour le mieux dans ce domaine.
Et donc, je peux décliner l'identité de l'invité de la semaine prochaine, qui sera Philippe Corret, qui vient de sortir aux éditions Juste pour lire, Lily de Chinatown, ou je dirais un pavé, dans la mare des polars, c'est du Céline chez Nestor Burma, c'est très touffu, c'est très bien écrit, c'est très complexe, mais c'est assez fascinant, donc pour le polar de l'été. Je rappelle aussi qu'il y a 4 titres dans la collection polar des éditions Juste pour lire. Il y a Jean-Marie Albert qui a écrit Le Corbeau de Paname. Il y a Morsure de Benoît Chavanneau avec une musique, une bande-son qui est facultative, mais c'est le premier livre qui a une bande-son, toujours de Heavenly Creatures, hein, ça c'est assez extraordinaire. Il y a Made in France de Marc Willem. Capitaine ABRB, donc un polar sulfureux, écrit de main de maître par un spécialiste, et Lily Chinatown de Philippe Corret, donc il y a 4 titres. 4 titres pour les polars, 2 titres dans la collection jeunesse, 2 titres dans la collection Ennemi historique, Le Vampire en France et Ange, Vampire et Démon, et des bandes dessinées, voilà.
Tu peux rappeler les titres de la collection jeunesse?
Donc, L'Enfant du Cimetière, de Pierre Brulet, et Gros Matou, et Le Secret de l'Arbre de Vie, de Clotilde d'Albepierre. Une bande dessinée Elisabeth Bathory, de Laurence Rasson et d'Amon Ekettel, et puis Aurelia, une sombre histoire de découverte de Dracula après la chute de Ceausescu en Roumanie, la ligne blanche, style Blakey Mortimer, comme dessin que j'adore, à l'ancienne. Voilà, dont donc c'est des bandes dessinées en deux volumes ou en trois volumes qui paraîtront très prochainement aux éditions Juste pour lire, qui sort à peu près deux titres par mois. Donc voilà, donc je remercie tout le monde d'être là, je remercie celle que j'aime aussi, je remercie Néo, je remercie Pierre, je remercie Zgatouf, qui s'est tenu à peu près bien ce soir, c'est bien, qui n'a pas débranché de fil.
Non, voilà. Pas encore.
Voilà, et donc je dis bonne soirée, puis à mercredi prochain.
À mercredi prochain, voilà, on se retrouve mercredi prochain. Merci Pierre d'être venu sur notre antenne. Demain, on se retrouve à 18h avec notre Switch International, n'est-ce pas, pour l'émission H2O. Et je vous rappelle aussi que, exceptionnellement, vendredi, il n'y aura pas d'émission avec Dr. Home, mais il y aura par contre une rediffusion d'une des premières émissions. Là-dessus, on continue en musique et je vous souhaite une très très bonne soirée à l'écoute de Radio Morpheus.
Bonsoir à tous.
Bonsoir. Bonsoir.